Bonjour, très chers amis et joyeux contribuables. Administration, institutions, associations, nous vous aidons à les rendre plus abordables, mieux comprendre vos droits et obligations. C'est votre vie pratique sur Radio B.
Si la pandémie liée au coronavirus reste d'actualité, il ne faut pas pour autant oublier les autres questions en matière de santé. Par la priorité qu'elle a prise, cette épidémie a non seulement entraîné des retards dans le traitement d'autres maladies, mais aussi des reports ou accès difficiles pour les actions de prévention, avec des conséquences importantes pour les personnes concernées. Cet effet pervers de la pandémie a été abordé dans la chronique du mois dernier relative aux examens de la prévention de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous resterons dans la prévention à l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Nous traiterons du dépistage de cette maladie qui reste la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Pour cela, je reçois le docteur Balamou du CRCDC pour Centre Régional de Coordination pour le Dépistage des Cancers. Bonjour docteur Balamou.
Bonjour.
Nous avions échangé dans ce même studio l'an dernier sur le dépistage du cancer du sein et vos réponses à mes questions avaient certainement bien éclairé celles et ceux qui avaient suivi notre entretien. Je vous propose de décomposer cette chronique en trois parties. Tout d'abord, expliquer la procédure ou réexpliquer la procédure de dépistage du cancer du sein, faire le bilan de l'année 2020 et enfin rappeler pourquoi la prévention est si importante dans ce domaine. Avant tout, juste en quelques mots et en guise d'introduction, merci de nous rappeler le rôle du Centre Régional de Coordination pour le Dépistage des Cancers.
Alors merci à vous et en quelques mots, on peut tout simplement dire que le CRCDC, c'est l'organisme qui assure au niveau régional, la région Auvergne-Aura, la gestion des dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal, mais aussi du cancer du col de l'utérus.
C'est un organisme lié essentiellement vers la prévention.
Vers la prévention et les dépistages.
On commence donc par expliquer la procédure, se déroule en plusieurs étapes. La première consiste par la réception d'un courrier d'invitation. Qui est concerné?
Alors effectivement, dans le cadre du dépistage organisé, pour le cancer du sein, nous invitons les femmes qui ont entre 50 et 74 ans. Et donc à 50 ans, elles reçoivent dans leur boîte aux lettres un courrier de notre part. Et ce courrier leur permet de se rendre directement dans un cabinet de mammographie pour bénéficier d'une mammographie de dépistage et d'un examen clinique des seins par un médecin. Et suite à cet examen, si le radiologue ne trouve aucune particularité à cet examen, il nous adresse à Bourg-en-Bresse, dans nos locaux, les mammographies qui seront dans un second temps revues par un second radiologue. C'est la seconde lecture. Et si cette seconde lecture est normale, nous renvoyons les clichés à la femme. En revanche, si une anomalie est retrouvée, la femme bénéficie d'une prise en charge immédiate.
Je résume, le courrier d'invitation, l'examen dans un cabinet, une première lecture,
oui.
Une seconde lecture.
Oui.
En fonction des résultats, la procédure peut varier.
Tout à fait.
Est-ce que la personne a le choix du cabinet?
Oui, effectivement. Le courrier d'invitation que nous adressons aux femmes le permet de se rendre dans tous les cabinets, soit du département ou des cabinets hors du département.
C'est un cabinet qui reste, la personne choisit elle-même son propre cabinet.
La personne choisit elle-même son cabinet et les cabinets dans le département de l'Ain sont tous des cabinets agréés, puisqu'il faut rappeler que dans le cadre du dépistage organisé, on a un contrôle tous les 6 mois des cabinets de mammographie.
C'est intéressant ça. Un contrôle, il est exercé par qui ce contrôle?
Alors ce contrôle est exercé par un organisme indépendant qui s'assure que le programme de dépistage met à disposition des femmes des moyens techniques qui correspondent un peu aujourd'hui à la réglementation en vigueur.
Donc quel que soit le cabinet choisi, quand la personne se déplace, elle peut être assurée de ce côté-là?
Tout à fait.
Le cabinet est véritablement habilité à exercer l'examen.
Et agréé. Et ce que nous donnons en plus aux femmes, c'est dans ce courrier d'invitation, nous ajoutons la liste des cabinets agréés pour le département, mais aussi des cabinets dans les autres départements de la région.
Donc c'est un courrier qui est très complet.
Bien sûr.
En principe, le dépistage est gratuit, on est bien d'accord?
En principe, il est gratuit.
Et il est gratuit, voilà. C'est la précision, c'est mieux en le disant. Mmh. Est-ce qu'il faut tout de même s'attendre à avoir à avancer des frais suivant les cabinets?
Alors effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que dans la pratique du dépistage, c'est la mammographie le dépistage et l'examen clinique qui sont pris en charge à 100% sans avance de frais. En revanche, quelquefois, en fonction de la densité mammaire, des signes que verra le radiologue, un médecin radiologue peut demander une échographie complémentaire. Cette échographie complémentaire n'est pas prise en charge par le courrier de dépistage. En revanche, il sera remboursé aux conditions habituelles
de la
par
même manière.
La CPAM et les mutuelles.
Et la complémentaire santé.
Tout
On
à
rentre
fait.
Dans le domaine général de l'examen.
Bien sûr.
Le courrier est adressé aux personnes qui ont entre 50 et 74 ans. Si je suis une femme, j'ai moins de 50 ans, j'ai plus de 74 ans. Il se passe quoi ? Je ne reçois pas de courrier, mais ça, si j'ai un doute, si j'ai quelque chose, est-ce que je peux m'adresser au CRCDC ?
Alors, le programme de dépistage, effectivement, pour des questions d'épidémiologie, s'intéresse aux femmes de 50 à 74 ans. Alors, avant 50 ans, le travail que nous essayons de mettre en place, c'est de l'information, de la sensibilisation autour de tous ces facteurs de risque qui, on sait aujourd'hui, peuvent impacter à près de 40% la survenue des cancers. Donc, avant 50 ans, c'est de la prévention primaire, l'action sur les facteurs de risque, et après 74 ans, effectivement, il est possible d'avoir des cas de cancer, et dans ce cadre de figure, nous orientons les personnes vers leur médecin traitant, puisqu'à cet âge, en lien avec les comorbidités, le médecin traitant est le plus à même d'assurer un suivi global de ses patients.
Comme dans bien d'autres cas, le médecin traitant, c'est souvent le point d'entrée quand on constate soi-même un problème sur sa santé.
Effectivement.
On vient de faire le point sur la procédure et on va passer à la seconde partie. C'est en préparant la chronique pour le bilan 2020, j'ai noté une baisse régulière du taux de participation depuis un pic que j'ai relevé en 2011-2012, mais surtout une chute importante pour la période 2019-2020 pour toutes les régions et toutes les tranches d'âge. Vous confirmez ?
Effectivement, ces résultats sont confirmés par Santé publique France, qui est un peu l'agence qui assure l'évaluation du programme de dépistage. Et on peut noter que sur la campagne 2019-2020, les taux de participation au niveau de la France sont de 45,6, alors que sur la campagne précédente, on était autour de 50%.
C'est ce que vous m'aviez dit l'an dernier, oui, je me souviens.
Et sur le département de l'Ain, sur la dernière campagne 2019-2020, nous sommes à un taux de participation de 50,9%, alors qu'on était à 52%. Donc effectivement, il y a une baisse. Cette baisse s'explique pour une grande partie en 2019, avec la pandémie, la fermeture des cabinets et tout ce qu'on a, qu'on a connu. Mais petit à petit, ce qu'il faut pouvoir dire aujourd'hui aux patientes, c'est qu'on a des protocoles de sécurité sanitaire qui sont installés dans tous les cabinets. Les cabinets ont rouvert et que c'est le moment effectivement de reprendre cette démarche d'information, de sensibilisation, mais aussi de recours au dépistage organisé.
Est-ce qu'il y a eu une interruption des invitations liées à la pandémie ?
Effectivement, en 2019, avec la fermeture des cabinets de mammographie. Nous, au niveau du CRCDC, nous avons arrêté les invitations et puis ça a repris petit à petit en 2020.
Donc vous avez répondu à la question qui suivait, mais je l'avais pris dans l'autre sens. En fait, c'est la fermeture des cabinets qui a entraîné l'arrêt momentané des invitations.
Effectivement.
Est-ce qu'il y a eu aussi une interruption des secondes lectures ?
Alors, les secondes lectures sur la région Aura, nous sommes en France parmi les deux structures de dépistage qui ont continué la seconde lecture pour essayer d'épurer tous les dossiers qu'on avait en attente. On a continué la seconde lecture. En revanche, à un moment donné, on n'avait plus de seconde lecture à faire puisqu'il n'y avait plus de mammographie qui arrivait. Donc ça s'est un peu estompé avec le temps.
Pour bien rassurer les personnes, cette seconde lecture, elle est totalement indépendante de la première. Elle se passe où ? Dans un autre cabinet de mammographie ou dans une autre institution médicale ?
Alors, la seconde lecture se passe dans les locaux du CRCDC. Pour les patientes du département de l'Ain, ça se passe à Bourg, dans nos locaux. Et nous avons le matériel qui permet à des radiologues indépendants, experts, qui ont été formés, de venir sur des plages dédiées et effectuer cette nouvelle lecture des mammographies.
Je précise pour celles et ceux qui nous écoutent que j'ai placé sur le site de Radio B l'adresse et toutes les coordonnées du CRCDC pour la partie du département de l'Ain, au cas où il y ait des questions à poser. Il y a des difficultés à la réouverture, au relancement du dépistage ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est peut-être qu'en 2019, après l'ouverture des cabinets, les protocoles sanitaires faisaient que les femmes ne... C'était pas facile pour toutes les personnes de retourner dans les cabinets pour des examens. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient dans les normes. Et on a de plus en plus, on retrouve de plus en plus les chiffres qui correspondaient aux chiffres de recours au dépistage dans les années précédentes. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que la baisse de recours au dépistage qu'on a observé, on ne l'a pas encore rattrapé.
Voilà, donc, c'était ma question. Voilà. Est-ce que le retard peut être rattrapé? Quand il y a du retard, d'une manière générale, on cherche toujours à le rattraper d'une façon ou d'une autre, en allant vite ou en allant trop vite parfois. Et dans ce cas-là, est-ce que ça peut être fait?
Alors, nous pensons qu'avec les séances d'information, de sensibilisation, et puis l'occasion que vous me donnez aujourd'hui d'interagir avec les auditeurs, qu'avec cette information, effectivement, nous amènerons les femmes à comprendre qu'aujourd'hui, le système est de nouveau à disposition et que nous avons au niveau des cabinets tous les protocoles de sécurité qui permettent aux femmes de revenir vers la partie du dépistage, puisque n'oublions pas, les dépistages permettent la détection de cancer s'il existe, mais surtout de cancer des stades précoces. C'est afin de pouvoir bénéficier d'un traitement moins lourd et de possibilités importantes de guérison.
On reviendra sur ce point particulier tout de suite dans la prévention. Une femme a reçu un courrier pendant la période de pandémie, le courrier d'invitation, elle l'a égaré, elle ne sait plus où elle l'a mis, elle voudrait quand même faire le dépistage. Comment elle peut procéder? Elle s'adresse au CRCTC?
Alors, c'est très simple. On a perdu son courrier, on s'adresse au CRCTC. Nous, on renvoie dans la foulée un nouveau courrier. Et si la femme se retrouve au cabinet de mammographie sans son courrier, il est possible de demander aussi au cabinet de mammographie de nous passer un coup de fil. On met à disposition le courrier ou les cabinets, pour certains cabinets de département de l'Inde, ils ont la possibilité, par le biais d'un site d'éligibilité, de directement vérifier que la femme est éligible et du coup d'effectuer sa mammographie de dépistage.
On constate donc une certaine souplesse dans l'organisation.
Tout à fait.
Pour rattraper le retard.
Oui.
Toujours en préparant l'émission, j'ai appris aussi que le dépistage réduisait la mortalité de 15 à 20%. Comment on peut sensibiliser la population, pas uniquement au mois d'octobre, mais de manière continue sur toute l'année, sur la nécessité de ce dépistage?
Alors effectivement, l'Octobre Rose nous permet au sein de dépistage de mettre en avant la sensibilisation et l'information autour des dépistages de cancer du sein. Mais tout au long de l'année, on travaille auprès des femmes, auprès des associations, avec les maisons de santé, les professionnels de santé, pour mettre en place de l'information, on va dire, à flux courant pour des groupes de population, puisqu'on sait que pour obtenir des changements de comportement, il faut s'adresser à des personnes, mais sur le long cours. Donc ce travail, on le met en place et c'est aussi peut-être un appel que je lance. S'il y a des besoins de formation, d'accompagnement, de professionnels de santé, de maisons médicales de santé, nous, au CRCDC, nous sommes à disposition pour les accompagner sur un plan pratique, mais aussi sur la mise à disposition de documentation si besoin.
J'espère que votre appel sera entendu et ça nous fait rentrer directement dans la dernière partie de la chronique où nous évoquons la problématique de la prévention. Si le centre régional de coordination pour le dépistage des cancers entre dans cette notion, quelles peuvent être les actions au niveau individuel, je dis bien au niveau individuel, pour diminuer le risque d'apparition du cancer et plus particulièrement celui du cancer du sein?
Alors, ce qu'il est important, c'est l'Institut national du cancer qui le rappelle, c'est qu'il est possible, quand on agit sur les facteurs de risque connus qui ont un impact important sur la survenue des cancers, en l'occurrence le tabac, l'alcool, l'alimentation, l'obésité et la sédentarité, quand on agit sur ces différents facteurs de risque, on peut réduire de 40% son risque de survenue de cancer. Et cette action est possible pour chaque personne. Chaque personne peut agir sur ces différents facteurs de risque pour diminuer son risque global de survenue des cancers et aussi de survenue de cancer du sein.
Je reste sur la prévention. Est-ce que vous pensez, quel est votre avis sur la notion de prévention dans notre pays, en France? Est-ce qu'on l'applique bien? Il y a certainement un sacré potentiel. Comment on pourrait faire?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le système français, on est plutôt très fort en termes de prise en charge. Et quand on compare un peu notre pratique de prévention à la pratique de prévention des pays du Nord, on est moins bon. Mais c'est quelque chose qui rentre petit à petit dans les habitudes. Et je pense que c'est à force d'information, de sensibilisation et de mise à disposition de matériel qu'on va arriver petit à petit à amener les personnes à se rendre compte qu'il est possible d'agir eux-mêmes sur des facteurs de risque et du coup d'agir sur leur santé sur le long cours.
Donc c'est bien ça, je suis en bonne santé, je ne remarque rien par moi-même, je dois quand même faire ce dépistage.
Tout à fait.
Je dois quand même appliquer de la prévention, même si j'ai moins de 50 ans, ou plus de 74 ans, pardon, par mon comportement.
Si vous voulez, les deux grands leviers qu'on peut dire, c'est en agissant sur les facteurs de risque, tabac, alcool, sédentarité, activité physique, on agit tous sur des facteurs primaires, et le dépistage nous permet de repérer si elle existe des maladies naissantes afin de pouvoir y apporter un traitement précoce.
Est-ce que l'éducation nationale participe à cette notion de votre connaissance? Est-ce qu'elle participe à cette notion de prévention pour le dépistage du cancer ou d'autres maladies?
Oui, effectivement, il y a des liens et puis des partenariats qui amènent des associations, soit de ce dépistage ou la Ligue, par exemple, contre le cancer, à intervenir dans des établissements scolaires pour promouvoir la prévention. Puisque ce qu'il faut noter, certes, les élèves ne sont pas aujourd'hui
forcément
soumis au dépistage du cancer du sein parce qu'ils n'ont pas 50 ans. En revanche, on peut agir auprès de ces jeunes sur tout ce qui est facteurs de risque, tabac, alcool, sédentarité, activité physique. Et donc, effectivement, l'éducation nationale a toute sa place. Et c'est en travaillant auprès des jeunes d'aujourd'hui sur la prévention que demain, nous aurons des adultes qui seront, on va dire, à fond dans la prévention et du coup...
Informés déjà.
Informés et plus à même d'aller vers ces programmes de prévention et de dépistage.
On peut considérer que ces mêmes élèves pourront parler à leurs parents et les servir de relais pour que ces parents-là procèdent au dépistage.
Tout à fait.
Mon âge se situe entre 50 et 74 ans. Je suis une femme, je n'ai pas d'antécédent familial, je ne fume pas, je ne bois pas, je pratique un sport, je m'enchaîne, c'est déjà bien. Hein. Dois-je participer à un dépistage?
Effectivement. Alors, le dépistage s'adresse à ce qu'on appelle une population à risque moyen, c'est-à-dire des personnes qui se sentent dans très bonne santé, qui font du sport, qui ont une alimentation saine. Sachant que l'idée, c'est que pour un dépistage, on s'adresse aux personnes qui sont censées être en bonne santé avec un dispositif qui nous permet de repérer des maladies naissantes. Des maladies à un stade où on n'a aucune symptomatologie.
D'accord.
Donc, ces personnes sont bien invitées et
à se déplacer
vers des campagnes de dépistage.
Parce que si on le détecte par le dépistage, la problématique du soin est moins importante.
La plantée des soins est moins importante et c'est surtout qu'en termes de chances de guérison, l'INCa, les déchets de l'INCa, c'est autour de 99% des cancers détectés à un stade précoce qui entraîne une guérison. Et c'est qu'il faut s'y rappeler aux personnes, il y a la guérison mais il y a aussi la qualité de vie. Quand on a un cancer qui est diagnostiqué à un stade précoce, très souvent la prise en charge se limite à une chirurgie. En revanche, quand le diagnostic est tardif, effectivement, il y aura une prise en charge, mais cette prise en charge va certainement s'accompagner d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie, et donc, en termes de qualité
beaucoup
de vie,
compliqué.
Impacter plus la personne, mais aussi sa famille.
Avec tous les effets secondaires qu'on peut imaginer et qu'on commence à bien connaître maintenant.
Tout à fait.
Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message à faire passer?
Alors, le message à faire passer, c'est peut-être deux messages. Le premier message, c'est de dire à chaque personne, à chaque femme, qu'on peut être moteur, qu'on peut agir sur les cancers en agissant sur les facteurs de risque, tabac, alcool, sédentarité, activité physique. Et puis, le second message, c'est de dire que le CRCDC est à disposition et qu'aujourd'hui, on a les cabinets de mammographie qui ont rouvert. On peut aller vers les programmes de dépistage. Et si vous avez une petite question, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre. On a notre site qui est à disposition ou par le biais de notre standard téléphonique.
Eh bien, merci docteur Balamou pour toutes ces informations et votre implication. Je rappelle que vous travaillez au Centre Régional de Coordination pour le dépistage des cancers. Merci encore pour votre travail de prévention. Et nous imaginons tous que l'année 2020 a dû être une période difficile.
Oui, mais on regarde de l'avant et on espère pouvoir repartir sur des campagnes de dépistage.
2021
merci à vous, docteur.
2021 ne doit pas être simple non plus. On va se tourner vers 2022. On peut prendre rendez-vous l'année prochaine pour le bilan?
Et ça sera avec plaisir.
Dans l'attente de nous retrouver au mois de novembre pour une nouvelle chronique, soyez sages et à bientôt sur le 90 FM, les bonnes ondes de Radio B. Thank you.